Chapitre 6 L'influence. Quand un génie, aussi conforme que celui de La Fontaine à toutes les traditions de la race et du terroir, se révèle et apparaît dans une nation, il est impossible qu'il n'y exerce pas une action puissante et continue. Peu importe que ce génie soit méconnu ou peu compris par les préjugés courants et la critique du jour, il pénétrera d'autant plus profondément l'âme commune qu'il l'envahit par le charme et non par le raisonnement. Comme il n'est pas de Français qui ne retrouve en La Fontaine quelques-unes des qualités qu'il estime et croit siennes, quelques-uns aussi des défauts dont il se sait atteint et souvent se fait gloire, l'esprit sociable et le désintéressement, l'attendrissement facile et l'inaltérable bonne humeur, le goût des galanteries sans trouble et des plaisirs sans excès, la raillerie sans méchanceté, la satire sans venin, de l'indulgence et de la diversité, avec du bon sens pratique et un sincère amour de la vérité et de la justice, il n'est pas de Français qui ne le comprenne et qui ne l'aime. Sympathie instinctive chez la plupart, mais qui peut être raisonnée. Car si le conteur ne nous représente pas toujours par les plus nobles côtés de notre tempérament ou de notre caractère, comme l'ont pu faire avant et après des poètes de plus haut vol, il nous présente par nos traits les plus généraux, les plus aimables, les moins discutables, et il ne donne prise en aucune façon à ces reproches que les étrangers adressent, le plus souvent par habitude, quelquefois avec raison, à la littérature et à la nation. Certains vices intermittents de notre esprit et de notre littérature, la vanité babillarde, les fanfaronnades tapageuses, les préciosités fades, l'érudition pédantesque, la rhétorique scolaire, la banalité sonore, l'ironie malveillante, l'affectation sceptique, lui sont absolument inconnus. Il est si absolument et si foncièrement français, par ses tournures de pensée et ses formes de langage, qu'il ne peut guère sortir de chez nous. Beaucoup d'étrangers, sans doute, dès le XVIIIe siècle, l'ont traduit comme ils traduisaient tous les écrivains du grand siècle. Mais il ne semble pas qu'en dehors de ces séductions de narrateurs, ils aient, la plupart, saisi ce charme subtil et nuancé qui tient chez lui, plus que chez tout autre, à la qualité et à l'enchâssement du mot. Sa gaieté surtout, cette gaieté latente et intime dont le fin sourire n'éclate jamais en gros rire, qui se prête, sans effort, à toutes les émotions modérées des sentiments tendres et des observations sagaces, mais qui glisse et murmure toujours comme une source alerte et intarissable sous la frondaison légère de ses caprices poétiques, échappe à beaucoup d'entre eux. Elle inquiète et scandalise les moralistes rogues et les graves sermonnaires. « Les Français, dit Lessing, estimant trop la gaieté, l'ont applaudi sur la parole de Quintilien, qui recommande la grâce et l'agrément, vénéré et gratia, ce qui ne signifie pas la gaieté. Aussi La Fontaine a fait de la fable un jouet d'enfant qui n'a plus cette précision ingénieuse des anciens. N'en déplaise aux trop savants allemands, ce n'est point par respect pour Quintilien, dont ils ignorent presque tous le nom autant que les œuvres, que depuis plus de deux siècles, tous les Français, instituteurs et écoliers, parents et enfants, savent par cœur et redisent les fables. Ne lui en déplaise encore, et s'il tient à Quintilien, dont le bonhomme se couvrait, par maladresse ou ironie, vis-à-vis des Lessing contemporains, où trouve-t-il un poète ayant mieux usé, vénéré et gratia, de la beauté et de la grâce, un poète plus attique? N'appelons pas gaieté, si l'on veut, cette beauté et cette grâce que posséda au plus haut point le fabuliste, mais constatons qu'il s'y ajoute quelque chose encore, une continuité d'amabilité bienveillante et affable qui ne laisse regretter ni la précision ni l'ingéniosité des anciens, puisque ces deux qualités sont encore les siennes et qui enlève au vieil apologue ce qui pouvait rester de sécheresse démonstrative pour l'envelopper d'une séduction autrement pénétrante et suggestive. Si l'influence de La Fontaine n'est guère visible en dehors de nos frontières, en revanche, chez nous, dans le domaine moral comme dans le domaine littéraire, c'est une des influences les plus persistantes et les plus profondes qu'ait jamais exercé un littérateur, bien que ce soit une de celles dont on parle le moins. Comme nous la subissons presque en naissant, en apprenant à lire, quelquefois même avant, nous n'y attachons point d'importance, n'en ayant point constaté, en âge de raison, l'arrivée et les développements, ainsi que nous faisons pour d'autres. C'est presque dans le berceau que ces adages répétés par nos grands-parents et ces récits répétés par nos mères viennent concourir à la formation de nos consciences et de nos âmes. On peut donc regretter que la morale des fables, notre vrai, notre unique catéchisme laïque, jusqu'à présent, ne s'élève pas plus souvent et avec plus de décision au-dessus d'un enseignement pratique et de bon sens fondé sur une expérience courante, et ne s'adresse que si peu aux grandes énergies et aux nobles aspirations de l'âme. On doit reconnaître néanmoins que pour la moyenne des intelligences, ces récits amusants et instructifs leur offrent, sous une forme attrayante, une somme énorme d'impressions délicates, de sentiments justes, d'observations exactes, de réflexions utiles, d'émotions poétiques, qu'elles acceptent sans résistance, dont elles restent pénétrées, et qui n'entreraient point chez elles par l'intermédiaire de créations littéraires plus hautes et plus nobles, mais d'un abord plus austère et qu'on lit rarement. L'influence des fables n'est donc ni mauvaise ni pernicieuse, comme l'ont déclaré, avec quelque hauteur méprisante, Jean-Jacques et Lamartine, qui d'ailleurs s'en étaient nourris, non sans profit, mais n'aimaient point à s'en souvenir. Nous avons vu, par l'analyse de la morale qu'elles contiennent, que la lecture et l'étude en sont utiles à ceux qui ne savent point, consolantes pour ceux qui savent, agréable et fructueuse pour tous. Sans doute, il est fâcheux qu'il n'ait point passé, quelquefois, dans l'âme vagabonde et distraite du fabuliste, le grand souffle de poésie noble et vigoureuse qui soulevait l'âme de Corneille. C'est ailleurs, c'est surtout dans les prosateurs, qu'il faut chercher, autour de lui, le sentiment des hautes vertus de notre race, la générosité chevaleresque, le dévouement au devoir, la conviction morale, l'amour patriotique et une excitation sérieuse à les pratiquer. Néanmoins, il serait injuste de méconnaître que, par les maximes populaires qu'il a répandues sur l'égalité des hommes, sur l'injustice des grands, sur la vanité des grandeurs, sur la puissance des humbles, sur les joies de l'indépendance, sur la solidarité des misérables, sur les plaisirs de la nature, il a exercé, sur le mouvement des esprits au XVIIIe siècle, une action latente et peu bruyante, mais continue et profonde. Fénelon est le premier qui relève de lui, Voltaire lui tient par bien des liens, Diderot, Jean-Jacques, Bernardin de Saint-Pierre en procède plus qu'il ne s'en doute. Si son influence a été vraiment fâcheuse par quelque côté, c'est parce qu'il fut, en même temps que l'auteur des fables, l'auteur des contes. Non pas que les contes, d'un accès moins facile, d'une langue incomplète, moins géniale et moins naturelle, compromettent beaucoup, dans la grande masse qui ne les lit guère, l'action soutenue et profonde des fables, mais parce que l'exemple, donné de si haut, d'une virtuosité qui se prête sans scrupule à toutes les besognes, n'a cessé d'encourager, dans notre monde littéraire, souvent chez les mieux doués, la pratique simultanée de la poésie pure et de la poésie ordurière. Quant aux bienfaits littéraires dont nous sommes redevables à La Fontaine depuis 2 siècles, nous pouvons à peine les compter. Il va sans dire que les imitations de ces fables ou de ces contes, si habilement qu'on les ait pu faire, ne comptent pour rien dans notre admiration. Personne ne fut et ne resta aussi inimitable. Les services qu'il nous a rendus sont d'un ordre supérieur et valent mieux que l'invention ou le perfectionnement d'un genre. Le premier fut celui de s'en tenir obstinément et naïvement à la tradition nationale pour la liberté de pensée et la liberté de langage, de reprendre sans affectation et sans fracas l'œuvre du Moyen-Âge et celle de la Renaissance, si brutalement interrompues par Malherbe, avec la culture savante et le goût affiné d'un honnête homme du XVIIe siècle. Le second, celui de prouver, par une série de courts chefs-d'œuvre, en dehors des règles établies, que la vraie poésie ne tenait ni à l'importance ni à la nature des sujets choisis, mais à la qualité même de l'interprétation personnelle. Le troisième, celui de montrer, vis-à-vis de la littérature rhétoricienne et éloquente, la valeur supérieure de la composition condensée et restreinte, du langage nettement imagé, sobre, discret, s'en tenant au nécessaire, du mot juste et précis, quelle que fût son origine, plébéienne ou noble, pourvu qu'il fût vivant, du mot propre, déjà menacé et bientôt banni pour un siècle par la triste périphrase. Le quatrième et le plus grand, celui de faire rentrer dans notre poésie, d'une façon définitive, comme Molière l'avait rendu au théâtre, le goût du naturel et le sens de la simplicité. C'est grâce à toutes ces qualités que le nom de La Fontaine, presque seul, a toujours été respecté, dans nos crises littéraires ou sociales, même par les plus ardents novateurs. Les écrivains du XVIIIe siècle y trouvèrent, avec certains pressentiments humanitaires, un modèle toujours utile de clarté, de vivacité, de sincérité. Ils n'eurent qu'à en mancher plus fortement et qu'à décocher plus rudement beaucoup des traits trop finement aiguisés dont il s'approvisionnait chez lui. Lorsque commencèrent à s'accumuler les symptômes qui annonçaient une véritable révolution littéraire, on n'oublia point que c'était par La Fontaine, par lui presque seul, que l'amour de la nature extérieure, le goût de la description pittoresque, le charme de la création objective, l'observation libre et générale de la réalité, le sentiment de la vie à tous ses degrés, chez tous les êtres, ne s'était point perdu au XVIIe siècle sous le majestueux étouffement de la littérature officielle et savante. Pour les premiers romantiques, ce fut le pont jeté à travers la sécheresse académique qui les mettait en communication avec la poésie trouble et désordonnée, mais abondante et généreuse du temps de Louis XIII, Henri IV et des Valois, et aussi avec la poésie, plus inégale encore, mais franche, hardie, loyale, savoureuse, de la vieille France et de la vieille Gaule. Pour d'autres, comme pour André Chénier, par exemple, ce fut surtout le sentier charmant qui les ramena tout doucement, en passant par Ronsard, vers l'immortelle Antiquité. Je puiserai pour vous chez les vieux écrivains, Écoutez seulement leurs préceptes divins. Soyez-leur attentifs, même aux choses légères. Rien chez eux n'est léger. Ce serait une curieuse étude de constater ce que Chénier doit à La Fontaine. En poussant de tous côtés l'analyse, on verrait aussi qu'un bien petit nombre, parmi les poètes romantiques, ne sont pas de temps à autre ses obligés. Lamartine d'abord, Victor Hugo lui-même, mais surtout Alfred de Musset. Quant à ce dernier, avec sa sincérité accoutumée, il ne dissimule pas sa gratitude, et l'influence du conteur et du fabuliste, déjà visible dans ses œuvres de jeunesse, devient unique et presque oppressive dans ses dernières. Béranger lui doit ce qu'il peut avoir de naturel et de vif. De notre temps, on trouverait sa marque constante et visible dans tous ceux des poètes qui demeurent dans la tradition nationale, dans ceux qui conservent le goût de la composition expressive et concentrée, du sentiment naturel et sain, l'amour de la pensée nette, de l'expression claire, du langage simple, pittoresque, vivant. Ce n'est point faire injure, sans doute, à Sully Prudhomme, Alphonse Daudet, André Theuriet, François Coppé, André Lemoine, Paul Arène et bien d'autres, de leur dire qu'ils sont, eux aussi, les petits-fils de La Fontaine, tant ils sont imprégnés de son esprit de sincérité, de clarté, de bienveillance, de grâce ou d'enjouement, tant ils sont comme lui, franchement et simplement français. Le temps n'est pas éloigné, peut-être, où par lassitude des sonorités creuses, des tensions emphatiques, des galimatias subtiles, de plus jeunes poètes demanderont de nouveau quelques conseils de bon sens ou de génie au bonhomme. Il ne les leur refusera pas, toujours souriant et toujours accueillant, et sans rancune pour ses détracteurs. N'est-ce pas, hélas, Lamartine, qui a dit que La Fontaine était un préjugé français? Il y a des chances pour que le préjugé dure autant que la nation.